Bougoche, là où sont les pères du Bec et les sœurs du Bec et Loin. C'est là qu'on a l'habitude de terminer par la célébration eucharistique. Et puis avant, on s'arrête sur une colline voisine qui s'appelle Kiriat Yearim, qui était à la frontière de Juda, Benjamin et puis de Dan. Mais Dan, vous rappelez, n'ayant pas pu conquérir son territoire à cause des Philistins, est allé au nord du pays s'installer du côté des sources du Jourdain. Alors à Kiriat Yearim est surtout célèbre parce que c'est là que l'Arche d'Alliance, retour du pays des Philistins, elle avait été conquise par les Philistins à Silo, et on va rattraper cette histoire de Silo qu'on a laissé tomber. Et alors on va parler de cette grande crise de l'histoire sainte qui était la prise de l'Arche d'Alliance par les Philistins. Et puis on va remonter une dernière fois à Jérusalem avec les disciples d'Emmaüs qui ont rencontré le Christ à la fraction du pain, et puis aussi en compagnie de l'Arche d'Alliance, parce que c'est là que David a été la chercher pour la faire monter à Jérusalem, qui est devenue par le fait même et de plus en plus le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, Hammakom Shebarar Bo Elohim, que de le Shaken et Shemo Sham. Alors on est maintenant à Kiriat Yearim, et puis on s'apprête à aller célébrer l'Eucharistie terminale à Bougosh, là dans l'église des Croisés.
Nous sommes à Kiriat Yearim, l'endroit où David va chercher l'Arche d'Alliance, vous rappelez. Et il y a un grand trou pour nous dans l'histoire de l'Arche d'Alliance. Un trou que j'avais l'habitude de boucher autrefois à Silo, mais Silo est difficile d'accès maintenant. Et je suis très content de le faire maintenant le dernier jour. J'ai l'expérience que c'est beaucoup plus intéressant. C'est l'occasion, en complétant notre histoire de l'Arche d'Alliance, d'assister à une grande crise de l'histoire sainte et de dégager une des plus grandes lois du développement du dessein de Dieu. Vous vous rappelez cette retraite, on découvre les grandes lois de la pédagogie divine qui préside à notre dialogue actuel avec Dieu. Ce qu'on pourrait appeler la dialectique d'accomplissement. L'histoire sainte est faite de crises. Ces crises sont de véritables métamorphoses, comme dans l'histoire de l'Église, comme dans notre vie personnelle. Des métamorphoses avec tout ça comporte à la fois de continuité et de dépassement. Et chose paradoxale, plus on avance dans le temps, plus les dépassements sont considérables. Quand on passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, on parle de nouvelle création. Et pourtant, plus on affirme les continuités. Et dans le Nouveau Testament, plus que jamais, on annonce qu'on est en continuité. Et la Sainte Vierge, dans son Magnificat, la Sainte Vierge dans la statue nous domine, là, à Kiriat Yearim, qui domine tout le paysage, qui est plus belle de loin que de près. Et la Sainte Vierge chante dans son Magnificat l'accomplissement des promesses faites à Abraham et à sa descendance pour toujours. Continuité et dépassement. Je voudrais que, et deux corollaires, c'est que chaque fois qu'il y a une crise, il se passe le même phénomène, c'est que d'une part, il y en a qui restent désespérément accrochés au passé, hein, dans une attitude qu'on va examiner ici. La Bible, impitoyablement, nous montre tous ces pièges. Et puis, il y en a toujours qui partent dans le bleu, ou bien qui partent en avant. Autrement dit, les intégristes et les progressistes. Et le père Gourbion, à l'école de qui j'étais autrefois, là, il ne s'agit pas d'être intégriste, il ne s'agit pas d'être progressiste, il s'agit d'être progressant. Alors ça, c'est important. Si on n'est pas des progressants, alors on est des morts. En étudiant cela, vous voyez, et je crois que c'est très bon le dernier jour de dégager cette grande loi qui est présente tout au long de la Bible. Et on va prendre une crise alors qui se passe à Silo. Vous vous rappelez l'importance de l'Arche d'Alliance. Sonné, le buisson ardent, je répète toujours la même. Ça structurait notre périple. Sinaï, la montagne ardente, et puis la demeure transporte par l'expérience de la rencontre au lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, Sion. Et c'est ici à Kiriat Yearim que David est venu chercher l'arche pour la transporter à Jérusalem. Pas dans l'exubérance, là, il dansait de toutes ses forces en tournoyant ça d'un pagne de lin. Et c'est comme ça que Jérusalem a trouvé cette signification qui se projette en éternité. Ça, on a déjà vu ça suffisamment. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé avant Kiriat Yearim? Eh bien, l'arche auparavant était à Silo. Et c'est très, très curieux de voir, les littératures juives a beaucoup mis l'accent là-dessus. Silo, c'est avant Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. À Silo, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Philistins ont fait une offensive là-bas du côté d'Afek, et ça allait très mal. Et alors, on a pensé que si on amenait l'arche d'alliance sur le terrain, ça allait retourner la situation, et que les Philistins seraient battus. En ce qui concerne Silo, hein, je suppose connu les premiers chapitres du Prélude de Samuel, qui sont indispensables pour comprendre les évangiles de l'enfance. Pour la présentation au temple, le petit Samuel, etc., qui grandit en âge, en sagesse. Je vous laisse lire tout. tout ça. Moi, je me borne ici à cette crise. Mon sujet principal, c'est ça. Alors, les Philistins sont d'abord un peu démoralisés par l'arche qui arrive là, mais ils reprennent vigueur. Les Israélites furent battus, chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand massacre. 1000 hommes de pied tombèrent du côté d'Israël. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Eli moururent, Ophni et Pinhas. Alors, un homme de Benjamin s'enfuit des lignes. Il arrive à Silo. Le vieux prêtre Élie, à ne pas comprendre le vieux prophète Élie, là, bah, est assis près du sanctuaire de Dieu qui est à cette époque-là à Silo. Il est aveugle, il entend du bruit. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive du camp, je me suis enfui des lignes, dit l'homme qui arrive là. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Israël a fui devant les Philistins. Ce fut même une grande défaite pour l'armée. Et encore tes deux fils sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À cette mention de l'arche de Dieu, Élie tomba de son siège à la renverse au travers de la porte et sa nuque se brisa et il mourut. Et il encaisse toutes les mauvaises nouvelles. Mais alors quand il apprend que l'arche est prise, alors ça... Alors on voit le même drame, il y a la femme de Pinhas là, qui apprend la nouvelle de la prise de l'arche d'alliance, de la mort de son beau-père et de son mari. Elle s'accroupit, elle accoucha car les douleurs l'avaient assaillie. Comme elle était à la mort, celle qui l'assistait lui dit « Aie confiance, c'est un garçon que tu as enfanté ». Mais elle ne répondit pas, elle n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ikavod, disant « La gloire a été bannie d'Israël ». Par allusion à la prise de l'arche, hein, à son beau-père et à son mari, elle dit « La gloire a été bannie d'Israël ». Parce que l'arche de Dieu a été prise. Tous ces détails, il faut prendre conscience. L'arche, c'était tout. C'était elle qui menait, pas tout le peuple était structuré autour de l'arche. Et vous vous rappelez comment il marchait étape par étape avec les indications de la nuée sur la demeure. Si l'arche est prise, c'est un anéantissement. Les ténèbres couvrent la terre. C'est l'absurdité qui remplit l'histoire sainte.
Mais alors, on a envie de poser la question, comment se fait-il que cette arche ait pu être prise par les Philistins?
Alors là, moi je constate, c'est un fait. Alors ce qui est le plus amusant après, c'est qu'on voit que les Philistins, ils ne savent plus quoi en faire de là. Alors vous avez des récits ici, je ne sais pas comme genre littéraire, on pourrait appeler le genre littéraire à se taper le derrière par terre. Ça existe aussi dans la Bible. On veut montrer que les Philistins ne savent pas quoi faire de... Alors il suffit d'écouter le récit pour éviter bien des faux problèmes. Hein. Écoutez le nombre de fois que le mot Dagon, c'est le dieu des Philistins, est mentionné. Lorsque les Philistins se furent emparés de l'arche de Dieu et la conduisèrent à Ashdod, les Philistins prirent l'arche dans le temple de Dagon, déposèrent à côté de Dagon. Quand les Ashdodites se levèrent le lendemain et vinrent au temple de Dagon, voilà que Dagon était tombé sur la figure par terre devant l'arche de Dieu. Ils relevèrent Dagon et le remirent sur sa place. Mais quand ils se levèrent le lendemain de bon matin, voilà que Dagon était tombé sur sa face par terre devant l'arche de Dieu, et la tête de Dagon et ses deux mains gisaient coupées sur le seuil. Il ne restait à sa place que le tronc de Dagon. C'est pourquoi les prêtres de Dagon et tous ceux qui rentrent dans le temple de Dagon ne foutent pas du seuil de Dagon encore aujourd'hui. Sentez-le. Il faut écouter la Bible. Manifestement, on veut montrer que les Philistins, l'arche d'alliance, c'est pas pour, ils ne savent pas quoi en faire. Alors, les Philistins, vous lirez le récit, tout le suspense, décident de ramener l'arche d'alliance. Ils la font évoluer dans toute la pentapole philistine, et puis ils décident de la mettre sur un chariot tiré par des vaches qui viennent de véler. Les petits sont retenus à l'étable, et ils disent si l'arche prend la direction d'Israël, et bien c'est vraiment un miracle. Alors, à ce moment-là, on saura que bon, c'est ça qu'il fallait faire. Et alors, ils font pour réparer, ils attrapent des ulcères, des chancres. Enfin, il y a des mots tellement grossiers que pour la lecture publique, il y a un autre mot entre parenthèses dans la Bible. Enfin, et je crois qu'en le bon Lafontaine, quand il parle des animaux malades de la peste, il dit tous étaient atteints, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient atteints, quelque chose comme ça. Enfin, il fait allusion au récit ici. Bon. Alors, ils font des images de leur tumeur, on devait rigoler encore plus fort, pour mettre à côté de l'arche qui prend tout droit le chemin et elle franchit la frontière entre les Philistins et Israël du côté de Beth-Shemesh. Mais alors les gens, ici, alors l'auteur manifestement, il veut montrer, on avait un peu perdu le sens du sacré, et il a besoin de redonner aux Israélites qui retrouvent l'arche le sens du sacré. Alors il y a un récit terrible ici, d'un autre genre littéraire qu'on trouve dans la Bible, et que j'ai connu à l'époque moderne. Alors, je ne sais pas, j'ai reçu une éducation dans des collèges traditionnels, là, et alors en fin d'études, on faisait venir des prédicateurs spécialisés. Et alors, ils avaient des récits terribles, ils nous faisaient trembler, ils nous montraient toutes les maladies qu'on pouvait attraper si, etc. Enfin, ils parlaient de l'enfer comme si vraiment ils avaient voulu qu'on y aille. Et on les appelait les Redom terroristes. Et alors, les gens de Beth-Shemesh voient l'arche venir, ils se réjouissent pas suffisamment, du moins certains, et Dieu les frappe d'une grande plaie. Vous voyez ? Alors, les gens de Beth-Shemesh, qu'est-ce qu'ils disent ? Qui pourrait tenir en face de Dieu le Saint ? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath Yearim, nous y sommes. Avec ces mots, les Philistins ont rendu l'arche de Dieu. Descendez et faites-la monter chez vous, à vous l'honneur. Et alors, c'est ici que l'arche va rester une vingtaine d'années, et puis entre-temps, David David ayant conquis Jérusalem, Orol gémit d'aller chercher l'arche qui était ici en panne à Kiriath Yearim, et puis Jérusalem devient ce qu'était Silo, mais beaucoup plus. Et alors, si vous trouvez ça dans la littérature rabbinique, hein, Jérusalem, c'est Silo beaucoup plus. Et au terme d'une crise qui est une véritable métamorphose. Il y a des dépassements, mais on voit très bien que c'est le même langage qu'à Silo. Santé. Alors, si vous parcourez un petit peu l'histoire sainte, qu'est-ce qui se passe, hein? Jérusalem grandit, elle est détruite par Nabucodonosor, roi de Babylone, en 586. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vraiment, c'est un anéantissement. Et le peuple subit une crise terrible, une véritable mort. Et après l'édit de Cyrus, c'est une véritable résurrection. La vision des ossements desséchés n'est pas qu'une vision, elle exprime une réalité. Il y a eu un mystère de mort et de résurrection. Mais alors, après le retour de l'exil, le deuxième temple qui est construit, hein, est beaucoup plus important que le premier. Il sera au maximum de son importance lorsqu'il sera détruit en 70 après Jésus-Christ. Le deuxième temple était le centre non seulement religieux, mais aussi national de toute une entité juive qui n'était plus limitée à la Terre Sainte et qui était pas un peu répandue partout dans le monde civilisé d'alors. Vous avez encore une mutation avec un dépassement et puis une continuité. En 70, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le temple est détruit. Et il faut voir le traumatisme que ça a été dans la tradition juive. Pour nous, chrétiens, le voile s'est déchiré, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce qui s'est passé une fois pour toutes est rendu présent à tous les points de l'espace et du temps jusqu'à ce qu'il revienne. Mais dans la tradition juive, cette ruine du temple reste comme un grand vide. Si vous connaissez un tout petit peu la prière juive, elle est pleine de nostalgie pour le temple qui a été détruit et d'espérance pour le temple qui sera reconstruit. Et il ne peut pas y avoir actuellement de joie parfaite parce que le temple n'est pas là. Moi, je médite là-dessus souvent devant le mur des lamentations. Au mariage, par exemple, on casse un verre parce qu'on pour en signe de la ruine du temple. Quand on construit une belle maison, un juif religieux laisse toujours une pierre non taillée, non peinte, non travaillée, en signe du temple. Non? Et il faut avoir assisté au mois de juillet par là, Tisha B'Av, au 9 du mois de Av. Et aller se mêler aux foules de juifs religieux qui, au mur occidental, vont crier les lamentations de Jérémie et certains restent toute la nuit. Et quand on connaît les écrits contemporains de cette ruine du temple, tout est absurde. Hein. C'est plus la peine de planter, de semer, puisqu'on ne pourra plus offrir les prémices au temple. C'est plus la peine de faire des enfants, puisque les premiers-nés ne pourront pas être offerts au temple. Enfin, c'est comme si le monde était mis en cul-de-sac, il perd cette possibilité d'élan vertical, d'Eucharistie. Pour nous, chrétiens, encore une fois, il y a une mutation. On passe de l'ancienne alliance à la nouvelle. Et c'est tellement, on parle de palingenesia, pas de nouvelle création, de kainektisis. Et puis en même temps, on affirme, comme la Sainte Vierge dans son Magnificat, que les promesses faites à Abraham sont pleinement accomplies. Les promesses qu'il a faites envers Abraham et sa descendance pour toujours. Vous sentez ce rythme? Bon, et bien toute histoire sainte, je crois toute histoire de l'Église, c'est comme ça. Et nous avons vécu, je crois qu'on en sort maintenant, une crise. Moi, j'ai connu ça avant, je connais ça maintenant, j'ai vu les gens qui l'ont traversé. Et c'est intéressant. Et notre vie personnelle est faite aussi. J'ai eu des psychologues dans mes groupes, ils me disent c'est formidable, parce que ce qu'on apprend pour l'évolution au fond personnel aussi de ces crises. Alors qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'il y a une crise dans l'histoire du peuple de Dieu? Eh bien, chaque fois qu'il y a une crise, c'est la même histoire. Il y en a qui restent désespérément accrochés au passé, et puis il y en a qui partent en avant. Et alors, et ce sont des intégristes, des progressistes, si vous voulez. Bon. Alors, des intégristes, la Bible est impitoyable là-dessus, on peut être intégriste pour des motifs radicalement différents. On peut être intégriste par insouciance, hein, ou manque de culture. On répète des comportements anachroniques parce qu'on néglige les leçons du passé, ou parce que la pesanteur nous amène à une insouciance comme cela. C'est comme ça, par exemple, que Jérémie... Eh bien, autant Jérémie, entre parenthèses, il faut le savoir, il habite à Anatote. Et à Anatote habite une dynastie de prêtres, le prêtre Abiathar, et après avoir pris le parti d'Absalom, là, est exilé à Anatote. Et certainement que Jérémie, descendant, prêtre lui-même, descendant de ces prêtres évincés, avait quelques ressentiments contre le clergé de Jérusalem. Mais alors, à Jérusalem, alors que la situation est critique, que les Babyloniens s'approchent, qu'on peut s'attendre au pire, il y en a qui répètent des comportements anachroniques. Ils disent le temple de Dieu, on n'a rien à craindre, on a une assurance touriste, le temple de Dieu est là parmi nous. Alors Jérémie va dans le temple, connaissons le livre de Jérémie en deux endroits simplement. Au chapitre 7, Dieu lui dit, va-t'en dans le temple, vous dites le sanctuaire de Dieu, le sanctuaire de Dieu, le sanctuaire de Dieu, si vous améliorez vos voies, si vous avez un vrai souci du droit, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, alors je vous ferai demeurer en ce lieu. Mais si vous avez le toupet de venir vous présenter devant moi en ce temple qui porte mon nom et dire nous voilà en sécurité pour continuer toutes les abominations que vous commettez, est-ce un repère de brigands, ce temple qui porte mon nom? Allez donc au lieu qui fut le mien, à Silo, autrefois où je fis habiter mon nom, regardez ce que j'en ai fait. Eh bien, si vous continuez à vous comporter comme maintenant, je vous traiterai comme j'ai traité Silo. Et au chapitre 26, lorsqu'il répète la même chose, il a failli laisser sa peau, Jérémie. Ce temple deviendra comme Silo, cette ville sera une ruine inhabitée. Le peuple s'attroupa autour de Jérémie. C'est intéressant de noter que le procès de Jésus, c'est pour ça que Paul l'Église nous fait lire la vie de Jérémie pendant le temps de la Passion. C'est une étrange figure de Jésus qui conteste au fond la religion même authentique quand elle sert de paravent à l'injustice et pire que l'idolâtrie. Alors c'est Dieu qui m'a envoyé, dit Jérémie, pour moi vous voici entre vos mains, mais Dieu m'a bel et bien envoyé. Et alors le peuple interroge le passé et se divise. Ils invoquent un certain Miché de Moréchette, on l'a traversé sur ce territoire, j'ai pas eu le temps d'en parler malheureusement, qui avait dit auparavant, Sion sera une terre de labour, Jérusalem un amoncellement de pierres et la montagne du temple une hauteur boisée. Et pourtant on ne l'a pas condamné. Il y avait encore un homme qui prophétisait au nom de Dieu, c'était Uri Yahou, fils de Shemaïaou, originaire de Kiryat Yarim. C'est intéressant. Un autre prophète qui remonte à la mémoire, vous voyez, quand Jérémie prophétise. Il prophétisa contre cette ville, il eut peur et prit la fuite et parvint en Égypte. Mais le roi Yehoyakim organisa une opération de police, il ramena d'Égypte Uri Yahou, et puis il le conduisit et le fit frapper de l'épée, jeté son cadavre parmi les sépultures. Sentez, le peuple se divise, les uns invoquent le passé et ils trouvent une justification de ne pas condamner Jérémie, et puis d'autres alors remarquent qu'un autre a été injustement condamné pour avoir dit les mêmes choses. Vous sentez, la Bible ne donne pas des choses simples, elle nous met devant des situations complexes et elle nous invite à exercer notre intelligence pour affronter nous-mêmes intelligemment les situations. Ça, ce sont des intégristes par insouciance, si vous voulez, qui répètent des comportements anachroniques. Vous avez un autre type d'intégriste qui l'est par excès de vertu. Hein, le père Ferret, dans son cours sur l'histoire de l'Église, là, il disait que si on faisait des statistiques de toutes les hérésies, le catalogue des hérésies de l'histoire de l'Église, on trouverait plus d'hérésies dans le sens de l'austérité, du conservatisme ombrageux, que du côté du laxisme. On vient encore d'assister récemment à quelque chose de ce genre-là. C'est très curieux. Alors, ici, il faut lire l'histoire des Récabites. Alors que les Babyloniens approchent de Jérusalem, il y a des gens qui arrivaient en terre promise, refusent de s'installer, pas de cultiver, de bâtir des maisons, de planter de la vigne, ils ne boivent pas de vin et ils continuent à rester dans la logique du désert. Voyez. Alors Jérémie les voit arriver à Jérusalem, ils ont peur pour leur peau, les Babyloniens arrivent, ils veulent se mettre à l'abri dans les murs de Jérusalem. Alors Jérémie les invite, c'est au chapitre 35 de Jérémie, c'est ça. Alors il les amène dans le temple, et dans une salle du temple, et puis là il met des amphores pleines de vin. Et des coupes de vin, et il leur dit, buvez du vin. Et bon, non, on ne boit jamais de vin, car notre ancêtre Yonadab, fils de Rekab, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils. De même, vous ne devez pas bâtir de maison, ni faire de semailles, ni planter de vignes, ni posséder rien de tout cela, mais c'est sous des tentes que vous habiterez toute votre vie afin de vivre de longs jours sur le sol où vous séjournez. Nous avons obéi à tout ce que nous a ordonné notre ancêtre Yonadab, fils de Rekab. Oui, Jérémie leur envoie dos à dos ces deux catégories d'intégristes, plutôt, disons. Et ces Récabites, alors on les retrouve dans un récit du livre des rois qu'on a raconté en Galilée. Je ne sais pas si vous rappelez de la révolte de Jéhu. Ce général-là qui fait un putsch militaire et puis qui massacre Israël et puis toute la famille, toute la dynastie de Jézabel. Et alors, un massacre terrible. Et le prophète Osée conteste cette violence. Mais alors, Jéhu trouve des gens qui l'approuvent. En ces Récabites qui rencontrent sur la route. Ça s'est raconté en 2 Rois, chapitre 10. Parti de là, Jéhu trouva Yonadab, fils de Récab, qui venait à sa rencontre. Ton cœur est-il loyalement avec le mien, comme mon cœur est avec le tien? Jéhoiada répondit oui. Si c'est oui, donne-moi la main. Jéhoiada lui donna la main et Jéhu le fit monter près de lui sur le char. Il lui dit, viens avec moi, tu admireras mon zèle pour le Seigneur. Il l'emmena sur son char, il entra dans Samarie et frappa tous les survivants de la maison d'Akab à Samarie et l'extermina. Ouais. Vous sentez comme tous ces récits sont de transmission actuelle, il y a des tendances de part et d'autre. On peut être intégriste pour des motifs extrêmement. Mais alors la Bible, impitoyablement, vous vous rappelez, vivante est la parole de Dieu, plus aiguë qu'une épée à deux tranchants, qui pénètre jusqu'à la jonction des moelles. Et, enfin, c'est la plus terrible des psychanalyses, au fond. On est amené impitoyablement à examiner des motivations pour lesquelles nous adoptons tel ou tel comportement. Alors, en face de ça, deuxième corollaire, à chaque fois qu'il y a une crise, vous avez des gens qui partent en avant. Moi, j'ai vécu cette crise, j'ai vu comment des gens traitent de problèmes sans même songer à interroger le passé. Et encrasse les problèmes par des tas d'idéologies, au lieu de faire comme la tradition nous invite à le faire, d'étudier, de voir que les problèmes ne sont pas complètement nouveaux. Ils ont un aspect nouveau chaque fois. Mais c'est en interrogeant le passé qu'on peut prendre son élan vers l'avenir. Toute la Bible est là pour nous le dire. Et moi j'ai vu les gens qui ont joué un rôle dans cette crise, je pense à Congar, de Lubac, des gens comme de Chenu, c'était des gens qui étaient fortement enracinés dans la tradition, et c'est eux qui ont apporté des solutions constructives. Mais il y a un type de progressiste alors qui est vraiment stérile et inutile. Alors à côté de ça, vous avez d'autres gens qui vont en avant, ce sont les saints. Et vous remarquerez qu'à chaque étape de l'histoire du peuple de Dieu, c'est très bon de méditer ça sur le dernier jour, vous avez des gens qui anticipent sur l'étape ultérieure pour comme stimuler la marche de l'ensemble vers l'étape ultérieure où tout le monde se retrouvera. Vous vous rappelez l'exemple des éclaireurs là, qui de Kadesh Barnéa sont envoyés par Moïse en terre promise et qui rapportent des fruits de la terre promise, la grappe de raisin et tout cela, dans le but de stimuler la marche vers la conquête. Chaque étape de l'histoire, c'est comme ça. Les prophètes, à l'époque royale, anticipent sur l'époque ultérieure. Et pour nous, chrétiens, vous avez les saints. Il y en avait un peu trop au calendrier avant le concile. On leur a fait passer un examen. Il y en a beaucoup qui n'ont pas passé l'examen, mais ceux qui restent, il faut en profiter. Il y a des saints pour chaque époque de l'histoire de l'Église qui gardent leur actualité. Et puis Dieu n'a pas fini d'en susciter. Alors ces saints, c'est très curieux. Tant qu'ils prennent l'Évangile au pied de la lettre, dans la pauvreté, ils font l'expérience. Ils deviennent des thaumaturges. Je lisais l'histoire des Pères du désert, je lisais le Luc Gubbio de Saint François d'Assise, je lisais Saint Jean de la Croix qui dit tout est à moi dans le renoncement le plus total. Dans l'obéissance, ils font l'expérience de la liberté, paradoxalement. Et dans la chasteté, ils font l'expérience d'amitiés qui sont très très belles, comme celles dont nous avons parlé déjà de Saint François d'Assise, de Sainte Claire, de Saint Salle, les Jeanne de Chantal, etc. Toute l'Italie. Et alors cet aspect de progressant, alors de vraiment d'authentique, est tellement indispensable au progrès de l'Église, du peuple de Dieu, que l'Église a voulu institutionnaliser ce prophétisme, avec tous les dangers que ça peut présenter. C'est la vie religieuse au fond. Je crois qu'on ne parle pas assez de l'aspect prophétique de la vie religieuse. Quand on fait des vies religieuses, ce n'est pas des frustrés qui vont ensuite passer leur temps en recyclage, en psychothérapie. Ce sont des gens qui, normalement, sont appelés à expérimenter les fruits de la terre promise pour les rapporter et stimuler la marche de l'ensemble vers ce royaume des cieux ou vers lequel nous sommes tous en marche. Et je crois que c'est important de bien noter ça. Vous voyez, nous avons, en survolant l'histoire sainte, la possibilité de dégager cette grande loi, de la dialectique d'accomplissement. Il y a des crises, des métamorphoses, des dépassements et des continuités. Plus on avance, plus les dépassements sont grands, plus les continuités sont affirmées. Et le même phénomène se répète chaque fois. Et tâchons d'éviter d'être progressistes ou intégristes, ce sont des attitudes infantiles, en fin de compte. Essayons d'être des adultes qui sont des progressants. Et profitons alors de... Et alors, j'ai ici noté il y a très longtemps, au temps où on retrouvait la Bible, parce que j'ai connu une époque là vraiment où la Bible n'avait pas la place qu'il fallait qu'elle aurait dû avoir dans les études de fond. Et alors on retrouvait la Bible, j'ai retrouvé les cours du Père Congar et puis aussi un certain Louis Bouillet de l'oratoire. Il était assez mordant Et alors, il avait une grosse culture biblique. Alors, il dégageait des lois. Et j'avoue que ça m'a tellement frappé que, bien que ce texte soit ancien, je le reproduis ici. Le procédé d'interprétation, parce que nous avons fait une lecture chrétienne de la Bible. Hein. Est-ce qu'on a plaqué des choses artificielles sur le texte biblique, qu'on nous reproche trop? Eh bien non, enfin, c'est ignorer enfin, cette espèce de croissance biologique enfin, qui se produit au long de l'histoire sainte. Et je crois que quand on parle un petit peu trop du sens littéral, du sens spirituel, du sens eschatologique, du sens moral, on cloisonne. Enfin, au lieu de rentrer dans le mouvement enfin, qui amène au sens plénier. Donc j'ai essayé de vous faire comprendre tout au cours de ce périple. Je vous lis le texte du Père Bouillet. Si je l'ai mis en exergue dans la petite brochure que vous avez, vous le trouvez quand je parle de silo, dans l'itinéraire un peu modifié, j'ai gardé le même itinéraire théologique, hein, mais les lieux ont été disposés un peu autrement, selon les possibilités d'accès. Le procédé d'interprétation appliqué par les écrivains du Nouveau Testament à l'Ancien, si différent qu'il soit de nos méthodes modernes exégétiques, apparaît de moins en moins, grâce au progrès de l'exégèse scientifique elle-même, comme un artifice, un procédé violent, comme un deus ex machina introduit du dehors pour les besoins de la cause. Et d'abord, il ne constitue aucunement une nouveauté. Rien n'est plus certain aujourd'hui que le fait que ce procédé est intérieur à l'élaboration de l'Ancien Testament, à l'élaboration même de l'Ancien Testament, et a conduit celui-ci à la forme nous l'avons présentement. Le réemploi, la réinterprétation des anciens récits, aboutissant à des transformations qui sont de véritables métamorphoses, apparaît comme le secret de la composition des écrits de l'Ancien Testament, sous leur forme achevée. Quand on les suit de près, on découvre enfin comment ce procédé peut être tout autre chose qu'un artifice gratuit. Il s'y révèle au contraire, selon la pensée des pères de l'Église, comme l'effet d'une véritable pédagogie providentielle. Grâce à cette pédagogie, Dieu, en amenant l'Israélite à approfondir ses expériences originelles et à y découvrir un sens nouveau, l'a conduit d'une religion encore primitive à une religion vivifiée par la révélation prophétique. On comprend alors que cette transposition fondamentale, qui n'a rien à coup de force, qui a tout d'une germination, d'une métamorphose biologique, est elle-même préparée et comme provoquée une seconde transposition, celle qui, de l'Ancien Testament lui-même, acheminerait au nouveau. Relisez ce texte, méditez-le, et vous verrez que j'espère que ça vous permettra de formuler un peu cette expérience que vous allez continuer à faire, hein, parce que tout commence le dernier jour à la BST, hein, tout commence le dernier jour. Et alors on a toute la vie pour interroger cette carte bien plus précieuse que la carte géographique que je vous ai donnée, cette carte à déchiffrer notre itinéraire dans ce grouillement. Alors, le suivant conseil que Paul donne à Timothée, lisons d'abord ça, enrichissons notre mémoire de cette mémoire d'éternité, et puis n'allons, ne regardons en arrière vers le passé que pour prendre un élan toujours nouveau, et plus on vieillit, hein, plus on interroge le passé pour prendre son élan vers le terme, comme dans toute la Bible. Alors, je suis content qu'il y ait cette statue de la Sainte Vierge là. Elle domine le paysage, je trouve qu'elle est bien à sa place. Et c'est ici, là, vous rappelez le récit du transfert de l'Arche à Jérusalem. On devrait parler de la visitation ici. D'ailleurs, spontanément, la liturgie nous invite à le Cantique des Cantiques, pas Enkari, mais ici, pourquoi pas, l'Arche d'Alliance. On a vu que c'est la Sainte Vierge, au fond, au sens plénier. Comment cela se fera-t-il? La puissance du Très-Haut couvrira de son ombre et celui qui viendra sera appelé saint. C'est elle qui est l'Arche d'Alliance, au plein sens du mot. Et alors, elle rend visite à sa cousine Élisabeth et les sources de bénédiction comme l'Arche d'Alliance dans la maison là, de Obed-Edom, de Gath. Elle se met en route vers Jérusalem, dans Saint-Luc. Tout converge vers Jérusalem. Ça commence à Jérusalem dans le temple, ça finit dans le temple. Jésus est présenté au temple, Jésus est retrouvé dans le temple. La troisième des tentations, c'est la tentation de vie pinacle du temple. À la fin, tout converge autour de Jérusalem. Et puis le dernier mot, c'était concernant dans le temple à louer Dieu. Alors pour Saint-Luc, il traduit cela dans cette culture biblique qu'il a. On ne peut pas comprendre les récits de l'enfance de Saint-Luc à aller voir le Père Laurentin si on ne connaît pas tous ces textes de l'Ancien Testament au début du livre de Samuel et puis l'Arche d'Alliance. Et alors je crois que, oui, on a dit aussi que le petit Jean-Baptiste danse dans le ventre d'Élisabeth comme David tournoie et danse devant l'Arche en route vers Jérusalem. Alors nous continuons notre marche vers Jérusalem, et nous le continuons, on l'a dit tout à l'heure, avec la présence eucharistique, qui le festin de la sagesse, la parole de Dieu et l'Eucharistie. Mais je crois qu'il y a aussi la présence non seulement du Christ, mais aussi de la Vierge Marie, qui nous dit comme noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Nous sommes distraits, nous sommes... Et alors nous empruntons cette très grande dévotion, le rosaire, dans le cœur, l'intelligence de la Vierge Marie, pour participer à cette connaissance dont nous avons parlé à Cana, là, en parlant de Saint Jean, théologien, hein, cette journée autour de Nazareth dans les horizons de la vie cachée, pèlerinage aux sources de l'intelligence chrétienne. Eh bien, nous participons à cette connaissance à nulle autre pareille qu'elle a eue du Verbe de Dieu, du Christ, en qui corporellement habite la plénitude de la divinité. Hein. Et c'est ce qui permet à Saint Jean, qui a participé à cette connaissance plus que d'autres, de dire ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont palpé du Verbe de vie. Voilà ce que nous vous annonçons pour que votre joie soit parfaite. La source de la connaissance et de la prédication. Voilà. C'est bon de terminer ici. De terminer ici, ou plutôt de terminer maintenant avec l'Eucharistie dans cet Emmaüs à bout gauche. Et bien ensuite, en montant à Jérusalem, vous voyez, comme ça, avec l'enthousiasme de David, et puis avec les enveloppés que nous sommes de cette grande nuée de témoins. Regardez cette route qui monte à Jérusalem, là. Elle nous évoque une dernière fois ce texte de l'Épître aux Hébreux qu'on a lu hier, là. Cette grande procession de gens qui se mettent en route par la foi vers la cité. Et on se retrouvera tous, j'espère, dans cette cité dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Et là, on se connaîtra encore beaucoup mieux. Eh bien, allons terminer l'expérience maintenant dans l'église de la Bougoche. On va célébrer l'Eucharistie. Et puis, on remontera à Jérusalem. Et alors, après ça, la BST, c'est fini. Hein. Vous continuez, vous faites ce que vous voulez. On vous aidera à faire vos programmes. Mais la BST elle-même, elle se termine à Emmaüs.